Le titre du message aujourd'hui, la marche dans la vérité. Nous allons tourner dans la troisième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est sans doute la joie la plus grande pour le Père céleste que de voir ses enfants marcher dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la vérité? Cela nous parle d'un enfant qui se soumet à l'esprit de vérité, qui est conduit par l'esprit de vérité. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est ça qui fait le plaisir du Père, de voir que nous suivons les indications de l'Esprit, que nous nous soumettons au Saint-Esprit. Cela fait partie de la promesse de Jésus par rapport à ses enfants, de nous laisser le Saint-Esprit qui, lui, va nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est notre conducteur, notre directeur. C'est aussi notre gardien. C'est lui qui va nous conduire dans la vérité et qui va nous garder sur le chemin, sur la voie de la vérité, qui va garder notre marche. Ça fait partie de sa promesse. Dans Ésaïe 35, le verset 8, cela nous parle de la Nouvelle Alliance. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est la promesse de Jésus de nous laisser un chemin et de nous donner le Saint-Esprit pour nous conduire sur ce chemin, sur la voie sainte. Et il nous mentionne que même les insensés, même les brebis qui sont insensés, ne pourront pas s'égarer. Parce que nous sommes des brebis. Nous agissons comme des brebis. Ésaïe 35, le verset 8. Nous agissons comme des brebis. Nous avons besoin d'un berger pour nous garder sur le chemin. David disait dans Psaume 119, le verset 176, « Je suis une brebis perdue. Cherche ton serviteur. Cherche-moi, Seigneur. Garde-moi sur la bonne voie. Je suis comme une brebis qui constamment s'égare. J'ai besoin d'un berger. » Mais Dieu a pourvu à travers Jésus-Christ, au travers de la Nouvelle Alliance. Il a pourvu un moyen de nous garder malgré notre folie, notre manque de sagesse. Dans Jérémie chapitre 10, le verset 23, on peut tourner, Jérémie 10, 23. Jérémie 10, le verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. » Le prophète Jérémie savait que ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas dans l'homme qui n'a pas le pouvoir de se diriger soi-même. Nous sommes comme des brebis. Et c'est à Dieu lui-même à nous diriger. Dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 31, Dieu dit au travers du prophète Ézéchiel, « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Nous sommes des hommes, nous sommes des brebis. Lui, il est Dieu. C'est son travail de nous diriger. Lui seul peut nous diriger, en fait. Ésaïe 34, verset 11, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. » J'aurai soin moi-même. C'est la Nouvelle Alliance. Dieu lui-même allait se charger de nous. Dans le psaume du berger, le psaume 23, David écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, dans la marche de la vérité. Il me conduit à cause de son nom, pas à cause de moi. À cause de son nom, à cause de son amour pour moi. Parce qu'il a promis qu'il le ferait en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Notre assurance, notre sécurité que l'on ne pourra pas s'égarer. Savez-vous que nous avons une assurance sécurité, une assurance vie éternelle, et que cette assurance-là, ce sont la houlette et le bâton de Jésus. C'est par ce moyen qu'il nous assure qu'il ne permettra pas que l'on s'égare. La houlette était ce bâton recourbé par lequel il reprenait la brebis qui s'égarait, il la ramenait vers lui. Il prenait la brebis par le cou avec sa houlette, il ramenait la brebis vers lui. Et le bâton, c'était pour corriger, pour frapper la brebis qui avait tendance à trop s'égarer. Cela me rappelle quand nous étions jeunes, quand nous avions une brebis, j'étais élevé sur une ferme, et quand nous avions des brebis qui voulaient s'égarer, eh bien, le cultivateur avait l'habitude de mettre ce qu'on appelle un carcan autour du cou de la brebis. Le carcan, cela consistait en trois planches de bois que l'on vissait ou clouait ensemble, assez serrées sur le cou de la brebis, en forme de triangle, et cela faisait que la brebis, la tête de la brebis qui était petite, ne pouvait pas passer au travers de ce carcan-là. Fait que la brebis était obligée de garder ce carcan continuellement, jour et nuit. Et lorsque la brebis, qui avait tendance à s'égarer, à passer dans les petits trous de la clôture, arrivait sur le côté de la clôture avec ce gros carcan-là, elle ne pouvait plus passer par le trou de la clôture. Et cela la gardait. Le carcan la gardait dans le bon champ, sur le bon chemin. Cela le gardait d'aller dans le champ du voisin, d'aller manger les choses du voisin qui ne lui appartenaient pas. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Quand Jésus parle du joug, prenez mon joug sur vous. Dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug, c'était le morceau de bois que l'on mettait sur le cou des bœufs. La même image que le carcan avec la brebis. C'est un morceau de bois qu'on mettait, qu'on posait, et le bœuf avait ce morceau de bois, cela servait pour le garder soumis, et le cultivateur pouvait se servir du bœuf pour labourer ses champs, etc. À cause de ce joug le gardait dans la soumission, le gardait dans le chemin que le maître lui avait tracé pour lui. Et c'est la même image. Jésus a placé un joug sur nous, un carcan, une houlette et un bâton. Cela fait comme un fardeau, cela peut être agaçant pour la brebis, parce que la brebis devait garder ce carcan jour et nuit, elle mangeait par terre, le foin, et elle avait ce carcan qui lui tombait par-dessus les oreilles. C'était agaçant. Mais c'était sa sécurité en même temps. C'était bon pour elle. Ça la gardait dans le bon chemin. Et Jésus fait la même chose. Il met un joug sur nous qui est peut-être un peu agaçant, qui est une sorte de souffrance, un fardeau. Mais il nous dit, ce fardeau est doux et léger. C'est bénéfique pour notre âme. Cela nous assure la vie éternelle. Cela nous fait reposer dans de verts pâturages, dans la certitude que nous allons garder la vie éternelle, que nous allons garder la marche dans la vérité, parce qu'il met sur nous ce joug. C'est la même image quand il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est la même image. La croix, c'est comme un joug que Dieu met sur nous, un carcan, une certaine souffrance, une forme de souffrance, pour nous garder d'aller dans le champ du voisin où la convoitise et l'orgueil sont maîtres, dans le champ du diable, du prince de ce monde, où la convoitise et l'orgueil envahissent ce champ. Et Dieu veut nous garder sur la voie sainte. hors de l'esprit de ce monde, hors de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Il faut qu'il nous garde, c'est la vie éternelle. Puis l'apôtre Jean avertit bien, il dit, ceux qui se laissent aller à la convoitise et l'orgueil, c'est pas l'amour du Père qui est en eux. L'amour du Père n'est pas en eux. Si c'est de la convoitise et l'orgueil qui te dirige, l'amour du Père n'est pas en toi. C'est l'esprit du monde qui est en toi. Et tu te perds, et tu es en train de te perdre. Tu as besoin de rester sous le joug de Jésus-Christ, de porter ta croix chaque jour, pour être gardé de cette convoitise, de cet orgueil. C'est le lot de tous les chrétiens. Et peu importe leur degré de spiritualité, l'apôtre Paul lui-même mentionne qu'un joug était mis sur lui, qu'un carcan était sur lui, qu'il avait apporté cette croix tous les jours pour justement le garder, entre autres choses, de l'orgueil. 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Une écharde, quelque chose d'agaçant, de tannant. Une sorte de souffrance qui est continuellement là, mais c'est Dieu qui met cela. C'est bénéfique, c'est pour nous garder, dans le cas de l'apôtre Paul, c'était pour le garder de l'orgueil. Une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Cela le gardait d'aller dans le champ du voisin, de prendre le même chemin que le diable lui a pris, parce que le diable a pris ce chemin de l'orgueil. Il a choisi de s'élever, de devenir comme Dieu au lieu de rester humble et abaissé comme Christ l'a fait lui. Et l'apôtre Paul avait besoin, dans sa vie, dans sa marche avec Christ, de ce joug sur son cou, de ce carcan. Sommes-nous meilleurs que lui? Certainement pas. Nous sommes tous des brebis qui, dans leur nature, s'égarent, dans leur nature, sont incapables de se diriger. Et l'apôtre Paul était lui aussi une brebis qui était incapable de se diriger lui-même. Il avait besoin lui aussi de ce carcan sur son cou. C'était sa sécurité. Cet ange de Satan venait constamment lui souffler à l'oreille son passé de persécuteur de l'Église, d'homme violent. Il se souvenait de sa condition passée. Et même s'il se savait dans son cœur qu'il était pardonné, qu'il n'y avait plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, cela l'humiliait. Cela le rappelait que oui, il était juste un homme et qu'il avait besoin constamment, constamment de la grâce du Seigneur, de la bonne direction du Dieu vivant. Mais cela faisait partie de l'alliance que Dieu avait promis. Dans Ézéchiel, Dieu avait promis cette alliance. Ézéchiel 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous marchiez dans la vérité en suivant les directions de l'Esprit. » Comment Dieu fait ça? Comment, dans la Nouvelle Alliance, cette promesse s'est accomplie? Elle s'est accomplie par ce joug, par cette croix, par ce carcan que Dieu, que Jésus-Christ met sur notre vie. L'apôtre Paul dit, « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, dans la disette. Je me plais, j'ai appris à me contenter là-dedans. » C'était là le joug que Dieu lui mettait sur son cou, mais il savait que c'était sa force, c'était cela qui le gardait sur le bon chemin. C'était la façon que Dieu avait choisi pour lui de le garder sur le chemin de l'humilité, sur le chemin du contentement, loin de la convoitise, sur le chemin de l'humilité, loin de l'orgueil. Dieu avait accompli sa promesse. Mais il fallait que Paul supporte cette croix, ce joug sur son cou, continuellement. Au verset 31 du chapitre 36 d'Ézéchiel, on voit une conséquence de ce joug que Dieu met sur nous. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Si Dieu fait quoi que ce soit dans notre vie, ce n'est jamais à cause de nous et ce ne sera jamais à cause de nous. Ce sera toujours à cause de sa grâce en Jésus-Christ. Parce que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a pourvu un chemin pour nous racheter, un chemin pour nous sanctifier, pour nous justifier. La justice de Dieu nous vient comme un don gratuit par Jésus-Christ et jamais de nous-mêmes. Ce n'est jamais et ce ne sera jamais quelque chose que nous méritons. Et l'apôtre Paul avait à porter ce joug sur lui pour se souvenir continuellement de sa condition, de son état de brebis qui s'égare facilement. Il marchait dans l'humilité à cause de ce joug, reconnaissant, se souvenant qu'il était qu'un homme, que si Dieu agissait puissamment au travers de lui, que cette puissance n'était pas due à cause de lui, que c'était dû à cause de Jésus-Christ, que cette puissance venait d'en haut, que c'était pure grâce, qu'il n'était pas meilleur que qui que ce soit d'autre, que c'était la grâce de Dieu dans sa vie. Un point, c'est tout. Et nous avons besoin de cette même grâce, de ce même joug, de se souvenir constamment de notre situation, comme Dieu avait averti au travers de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Une église dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, reprends tes premières œuvres. Il faut se souvenir de notre condition passée. Il faut se souvenir de quelle est la condition de notre cœur, que nous avons besoin continuellement, jour après jour, de son esprit pour nous diriger, de sa grâce. Nous ne sommes rien sans lui. Ce qui était vrai pour l'apôtre Paul l'était aussi pour l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre vivait la même situation lui aussi. Il portait cette croix à tous les jours. 1 Pierre chapitre 2 au verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, à supporter la souffrance, comme une grâce devant Dieu. C'est notre appel. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix. C'est notre appel. Et il continue, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. La croix, ce n'est pas juste le lieu où la source où la grâce de Dieu coule. C'est ce que Jésus a accompli à la croix, qu'il a porté nos péchés, qu'il a porté nos maladies. C'est une facette de la croix. Mais il y a une autre facette de la croix, où Christ nous a laissé sa croix en exemple, pour que nous suivions ses traces. Il désire que nous portions sa croix après lui, avec lui, par son esprit. Et il nous promet, cela ne sera pas un joug lourd, pesant. Cela va être un joug doux et léger. Mais cela reste un joug, cela reste une certaine souffrance. C'est notre appel. Afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. L'apôtre Pierre est en train de dire que cette petite souffrance-là, ce joug, nous gardait de vivre dans la convoitise. C'était notre sécurité pour ne plus vivre dans cette convoitise dans laquelle les hommes s'égarent et qui corrompent le monde. Qui est-ce qui est dans le monde et qui corrompt le monde? Notre sécurité, c'est ce joug, c'est ce carcan. 1 Pierre chapitre 4, le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Versets 18 et 19 du même chapitre. Et si le juste se sauve avec peine, avec souffrance, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On peut se reposer en lui dans notre berger. Ne pas craindre. C'est notre sécurité, sa houlette et son bâton vont nous garder sur le bon chemin. Cette croix qu'il nous demande de porter ne sera pas au-delà de nos forces. Jamais. Ça va rester doux et léger. Ça va nous permettre juste de ne pas aller dans le champ de l'ennemi, juste de ne pas tomber dans la convoitise ni dans l'orgueil, de rester sur la voie sainte. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. J'ai appris à avoir faim et à être rassasié. C'était le joug que Christ avait posé sur lui pour le garder justement des tentations du diable. Mais l'apôtre Paul aussi avait averti que dans la fin des temps, il y aurait des faux docteurs qui enseigneraient le contraire, qui diraient aux gens les choses qu'ils voudraient entendre, qui détourneraient les gens de la vérité, de la marche dans la vérité, la marche sous l'esprit, pour permettre aux gens de marcher selon leur propre convoitise, selon leur propre désir, qui enlèveraient autrement dit la croix de l'homme. Des faux docteurs qui enlèveraient le besoin, l'appel qu'on a sur notre vie de porter aussi notre croix à la suite de Jésus. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Pierre, lui aussi, nous avertit de la même chose. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience, la capacité de supporter la souffrance. Que cette patience est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Des gens qui tordent le sens de l'Écriture pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, qui dilue l'évangile de Christ, qui enlève l'essence de l'évangile, qui présente un autre évangile à l'eau de rose, où chacun peut marcher selon sa convoitise, selon ses désirs. C'est un faux évangile. C'est pour ça, si on revient à ce qu'on a lu au début, 3 Jean, 3e épître de Jean, où l'apôtre Jean dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Toute l'épître, l'apôtre Jean, parle de cette marche dans la vérité. Et il dit au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite qu'en toute chose, tu fasses bonne route et que tu sois en aussi bonne santé que l'est ton âme. » Remarquez la traduction que j'ai employée. « Je souhaite qu'en toute chose, tu fasses bonne route et que tu sois en aussi bonne santé que l'est ton âme. » Parce que tout le chapitre nous parle de la marche dans la vérité, de la route dans la vérité. Et le mot que certains traducteurs ont employé pour traduire « Je souhaite que tu prospères », le mot « prospérer », que tu prospères à tous égards, ce mot-là n'est pas dans le grec. Le mot qui est dans le grec, c'est « en odou », qui vient du mot « en-o-dos »,« en » qui veut dire « bien »,« bon »,« odos » qui veut dire « chemin »,« voie », »,« route ». Cela nous parle de faire bonne route. Le mot « odos » est le même mot qui est employé pour caractériser les chrétiens qui suivaient la voie, le chemin. On appelait les disciples de Jésus « ceux qui suivent la voie », »,« ceux qui suivent de « odos ». Et c'est le même mot que l'apôtre Jean emploie. En odou, qui est la forme passive du mot en odos, qui veut dire faire bonne route. dans le sens propre du mot. C'est seulement dans le sens figuré que ce mot peut signifier faire bonne fortune. Mais si on prend tout le contexte de l'épître de Jean, on voit clairement que tout le contexte parle de la route, de la marche dans la vérité, le chemin de la vérité, suivre ce chemin. Donc il est clair, l'apôtre Jean souhaitait que Gaius fasse bonne route, qu'il continue, la forme passive, c'est-à-dire qu'il continue à demeurer sur ce chemin de la vérité, sur la bonne route de la vérité, sur le bon chemin qu'était son âme. Son âme était sur le bon chemin. Il souhaitait qu'en toute chose, Gaius puisse demeurer sur la bonne route. En odou. Tout le contexte nous dicte cette pensée-là. J'ai été fort réjoui, verset 3. Lorsque les frères sont arrivés, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la marche dans la manière dont tu marches dans la vérité. Parce que l'apôtre Jean marchait dans la vérité. Et c'était sa plus grande joie que de voir les chrétiens marcher dans la vérité de l'Évangile, suivre Christ et porter sa croix. Mais là, il y a des gens qui ont tordu ce verset. Je souhaite que tu fasses bonne route. Des traducteurs même. Parce qu'en grec, le mot en odou, dans le sens figuré, je dis bien au sens figuré, au sens propre, ça veut dire bonne route, bon chemin, bon voyage. C'est une expression qu'on disait quand quelqu'un partait et on disait bonne route, que tu fasses bonne route. Mais au sens figuré, ça pouvait vouloir dire aussi bonne fortune, prospérité matérielle. C'était le sens figuré. Mais on voit tout le contexte que l'apôtre Jean emploie, que ce n'est certainement pas le sens figuré. Jamais l'apôtre Jean ne mentionne le côté financier des choses dans cette épître. Il parle de la vérité. Il parle de la marche dans la vérité. C'est évident que c'est le sens propre, que tu fasses bonne route. En toute situation, que tu saches discerner la vérité, te soumettre à l'esprit de vérité, marcher dans la vérité. Mais vous voyez, on a pris ce verset-là et on en a fait toute une doctrine aujourd'hui. Une fausse doctrine, des faux docteurs. Je souhaite que tu prospères, comme si c'est le désir de Dieu que tu prospères à tous égards. C'est pas ce que l'Écriture dit. On a tordu l'Écriture pour y faire dire ce qu'elle ne dit pas. Le désir de Dieu, c'est qu'en toute chose, nous marchions dans la vérité. Que nous soyons dans la disette ou dans l'abondance, que nous marchions dans la vérité. Que nous ayons faim ou que nous soyons rassasiés, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se laissait en exemple, disait « Suivez mon exemple ». Il parlait pour tous les chrétiens, vous devez porter votre croix vous aussi. Et il dit bien que cette croix-là, que cette faiblesse qui était là dans sa chair, l'outrage, la disette, la faim, les persécutions, toutes ces choses-là, c'était le joug que Dieu avait placé sur lui pour le garder justement des convoitises. Le désir de s'enrichir, qui est une forme de convoitise, la gloire de l'homme, l'orgueil. Ici, les faux docteurs nous disent que ce serait la volonté de Dieu que l'on s'enrichisse, que l'on marche dans tous nos désirs et nos convoitises, que l'on prospère à tous égards. On a tordu l'Écriture pour y faire dire ce qu'elle ne dit pas. Il y a tout un mouvement de prospérité américain, plein d'évangélistes, de pasteurs, leur base de leur doctrine est ce verset. Et avec ce verset, ils contredisent tout l'Évangile. Puis ce verset-là est tordu dans son interprétation même. Il est souvent mal traduit. C'est traduit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Tandis que ça devrait être traduit clairement « Je souhaite que tu fasses bonne route. » Bonne route, bon chemin dans la vérité. Que tu suives la voie tracée par Jésus-Christ. Et que tu sois en aussi bonne santé que l'est ton âme. Parce que Jésus-Christ a porté nos maladies, a porté toutes les conséquences du péché sur notre vie. Nous n'avons pas à porter le joug de Satan sur notre vie, mais nous avons cependant à porter le joug de Christ. qui est une souffrance légère pour nous garder de la convoitise, nous garder de l'orgueil. C'est un joug, c'est une croix. Ce n'est pas le joug de Satan, ce n'est pas les choses que Satan, les œuvres de Satan, de destruction. Dieu ne nous dit pas non plus de marcher dans la pauvreté. Ce n'est pas ça qui est enseigné ici. Mais c'est de toujours discerner, de suivre l'esprit de vérité. Quand il nous conduit dans la disette, d'y marcher avec joie. Quand il nous conduit dans l'abondance, d'y marcher avec joie. Parce que Christ, par sa croix, a détruit la malédiction de la pauvreté. Christ, par la croix, a détruit la malédiction de la maladie. Ça a été détruit à la croix. Ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur nous. Mais Dieu, Jésus, à cause de son amour, puis parce qu'il connaît ce qui est dans le monde, la convoitise et l'orgueil, il va mettre un joug pour nous garder de tomber dans des pièges, dans des désirs, des faux désirs, des désirs qui nous détruiraient. C'est pour ça qu'il nous conduit quelquefois dans la disette et quelquefois dans l'abondance. Il n'y a plus la malédiction de la pauvreté. Elle a été détruite à la croix. Mais Christ veut nous garder sous son joug, dans son esprit de contentement, être content de l'état où nous sommes. Le contentement, c'est la tempérance, c'est le fruit de l'esprit qui fait que, peu importe l'état où nous sommes contents parce que notre joie repose en Christ. Notre joie repose dans l'Esprit de Dieu et non pas dans les circonstances qui nous entourent, non pas dans les choses visibles qui nous entourent. Nos yeux, nos regards sont fixés sur les choses invisibles, sur les choses d'en haut, sur les choses qui nous sont données par l'Esprit de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est par lui que nous devons marcher. Et c'est en lui que nous devons nous réjouir. Et non pas dans l'abondance de nos biens, non pas dans notre prospérité financière. C'est un piège. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, l'apôtre Paul avertit. Et la piété, avec le contentement, est une grande source de gain. Il dit « avec le contentement ». Il dit « si vous n'avez pas le contentement, vous passez à côté de l'Évangile, parce que vous ne suivez pas la trace de Jésus. Jésus n'est pas né dans un palais. Il ne s'est pas enrichi, il n'a pas commencé à acheter des multitudes de terres et de buildings pour construire un archi-grand royaume. Terrestre, ce n'est pas le chemin que Jésus a suivi. Il a marché jusqu'à la croix. Il a porté sa croix. Il a marché sur ce chemin-là, il a dit, « Suivez mon exemple maintenant. Tant que vous serez si bas, vous devez suivre mon exemple, si vous voulez être des vrais disciples. Et ne pas vous laisser tromper par un faux évangile, par des faux docteurs qui vous enseigneraient à marcher selon vos désirs à vous. Cela n'est pas le vrai évangile. C'est un évangile tordu. La prospérité, l'évangile de la prospérité, est un faux évangile. C'est tordu. Nous devons continuer à marcher dans la vérité. » L'apôtre Jacques nous disait la même chose dans Jacques chapitre 4. Il dit « D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous ?» Jacques chapitre 4, le verset 1. « Elles viennent de vos passions qui combattent sans cesse dans vos corps. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêt à tuer. » Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, et alors vous avez des querelles et des luttes. Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Et si vous le demandez, vous ne le recevez pas, parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs, vos propres convoitises. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est le même avertissement, c'est toujours le même avertissement. Ne pas se laisser tromper par les convoitises trompeuses. Ne pas retourner dans le champ du voisin, le champ du diable. Nous avons été séparés du monde. Nous avons été libérés de l'emprise de Satan, de l'esprit de ce monde. Non pas pour y retourner. Nous n'avons plus à marcher selon la convoitise et selon l'orgueil. Nous avons à marcher selon Jésus-Christ, selon l'Esprit de Dieu, en toute humilité, en toute soumission, en trouvant notre joie en lui, et non pas dans ce que nous possédons, non pas ce que nous avons, mais en lui, parce que lui, il est notre plus grand bien. Lui, il est notre héritage. Lui, il est notre amour, celui qui nous aime par-dessus tout. C'est le bien-aimé qui réjouit nos cœurs, qui remplit nos vies de sa présence, de son esprit. Et si nous voulons rester dans sa présence, nous devons prendre et dire, prenez sur vous mon joug. Nous devons accepter et le prendre, ce joug. Savez-vous que Dieu vous laisse libre de le prendre ou de le refuser? Savez-vous que Dieu ne vous imposera pas ce joug-là? Si vous ne le voulez pas, vous ne l'aurez pas. Mais si vous ne le voulez pas, vous témoignez devant Dieu que vous préférez garder votre vie dans ce monde. Et Jésus vous avertit, si vous voulez garder votre vie dans ce monde, vous allez la perdre. Si vous voulez continuer à conserver cette vie dans ce monde, vous allez perdre votre vie. Vous n'êtes pas sur le chemin de la vérité. Si vous refusez ce joug, vous refusez l'Évangile. Vous refusez de marcher dans le chemin que Christ a tracé pour vous. Alors vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes perdu, vous êtes encore égaré. Et vous avez besoin de faire demi-tour, de vous repentir de ces désirs mondains, de ce désir de gagner le monde, de gagner les choses du monde, d'avoir une grande carrière, d'avoir des grands objectifs de prospérité, une belle grande maison. Toutes choses qui peuvent devenir une tromperie, un piège de Satan pour vous garder loin de Jésus-Christ. Pensez-y. Dieu ne forcera jamais personne à suivre ce chemin. Il nous a laissés libres. Et il dit, prenez mon joug sur vous, car c'est à nous à prendre ce joug. À dire, oui Seigneur, je veux marcher sur ce chemin. Je veux prendre ta croix sur moi et la porter. Pas par mes propres forces, par ton esprit, par la force que communique ton esprit. C'est ton esprit qui va me diriger. C'est ton esprit qui va être mon gardien, mon directeur, mon berger, mon consolateur, celui qui me fortifie sur le chemin. C'est ton esprit qui va me garder sur la voie droite, sur le chemin de la vérité. En lui, par lui, pour lui, tout est possible. Mais si vous choisissez la voie, le chemin large, le chemin spacieux qui mène dans le monde, vous allez vous perdre. Vous êtes sur le chemin de la perdition. Il faut prendre le chemin étroit, la porte étroite et resserrée. C'est resserré parce qu'il faut que vous abandonniez votre vie, pour que vous renonciez à vous-même, à vos propres désirs, à votre propre sagesse, à votre propre plan de futur, votre propre destinée. Il faut que vous renonciez à toutes ces choses. Seigneur, ton plan pour ma vie, ta destinée, ce que tu veux pour moi. Ce que tu veux, c'est ma nourriture, comme disait Jésus. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, selon sont ceux qui demeurent éternellement, dit l'apôtre Jean. Ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. Ceux-là seuls ont la vie éternelle, ils demeurent éternellement. Mais ceux qui marchent selon la convoitise et l'orgueil selon l'esprit qui agit dans le monde, l'apôtre Jean avertit. Il dit, vous allez vous perdre. Vous êtes sur le chemin de la perdition. Faites attention. Repentez-vous. Revenez. Revenez à votre bon sens, dit l'apôtre Paul. Vous êtes en train de vous égarer. Acceptez de recevoir ce joug, ce carcan sur votre épaule. Ça va être votre sécurité. Recevez sa houlette et son bâton. Dites, Seigneur, prends ta houlette et ramène-moi vers toi. Prends ton bâton s'il le faut et corrige-moi. Il faut que je reste sur le chemin de la vérité. Il faut que je reste entre tes mains. Je préfère un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère manger du foin dans ta maison plutôt que d'avoir des bœufs engraissés si la haine, si l'esprit de convoitise est là. C'est ce que la parole nous enseigne. Et elle nous laisse devant le choix. Le choix nous revient à nous. C'est à chacun de nous que revient le choix de passer dans le trou, de passer par le chemin étroit, d'abandonner notre vie, de prendre sa croix sur nous et de le suivre, de recevoir son carcan qui est notre sécurité, notre assurance éternelle que nous allons garder la vie éternelle qui est en nous. C'est notre seule sécurité, sa houlette et son bâton. De marcher dans la vérité fait la joie du Père. Que nous marchions dans la vérité, conduits par l'Esprit de vérité, le Père est joyeux dans ce temps-là quand il voit ses enfants marcher dans la vérité. Mais quand il voit ses enfants suivre l'Esprit du monde, cela l'attriste et il retire son esprit. Suivons le chemin de la vérité. Faites le bon choix, auditeur. Recevez la vérité dans votre vie, dans votre cœur. Faites le bon choix. Choisissez maintenant de suivre Jésus. C'est pas tout d'avoir accepté Jésus comme sauveur un jour. Maintenant, prenez votre croix. Prenez son joug sur vous. C'est votre décision, c'est votre choix. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Que ce soit notre chemin, que ce soit notre marche, que ce soit notre désir aujourd'hui. Amen.